Chapitre 15. Le jour de Noël trouva Claude installé dans un autre logis. Il l'avait découvert la veille, non loin de Knightsbridge, dans une petite rue tranquille d'où l'on apercevait les arbres d'un square voisin. Miss Picknell versa une larme sur ce brusque départ, dont elle comprenait toutefois la nécessité. « Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Venez me voir quelquefois lorsque... » Elle leva les yeux au plafond d'un air sentimental. « Lorsque Miss Beaumary sera heureusement mariée, » acheva Claude froidement. « Ah, monsieur, croyez que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les péripéties de ce petit drame. Vous savez que notre sympathie, à nous autres femmes, appartient toujours aux vaincus. » Claude rougit. Il ne goûtait guère ce genre de consolation. Il se détourna et prit une petite branche de gui dans un des vases qui ornait la console. « Donnez-moi ceci en souvenir des heureux mois que j'ai passés dans votre maison, Miss Picknell. » « Ah, de tout mon cœur !» s'écria-t-elle, visiblement émue. « Quand vous penserez à nous, » ajouta-t-elle à voix basse, « que ce soit sans amertume. » Il lui serra la main et s'en alla. Olive était sortie, sans doute pour éviter de le rencontrer. Tout à coup, à un détour de la rue, il crut l'apercevoir. C'était bien elle, c'était sa démarche élégante et le petit chapeau vert foncé qui allait si bien à ses cheveux blonds. Elle détourna la tête, paraissant très désireuse de n'être pas reconnue, mais il alla droit à elle. Il voulait prendre congé d'Olive comme d'une simple connaissance, posément, banalement. C'est pour cela, sans doute, qu'il lui saisit tout à coup la main. Il se rappelait les heures de découragement dont un sourire, un mot d'Olive, avait su le tirer. S'il avait lutté avec persévérance, s'il s'était enfin rapproché du but, n'était-ce pas à elle qu'il le devait ? « Olive, vous avez été cruelle. Vous en aviez le droit, paraît-il. Mais, croyez-moi, je puis vous remercier cependant de tout ce que vous m'avez donné. » « Je ne vous ai rien donné du tout, » s'écria-t-elle. « Comment osez-vous ? Laissez ma main. Vous oubliez que nous sommes dans la rue, monsieur. »« Pardonnez-moi, voilà que je suis de nouveau excentrique, » dit-il froidement. « Adieu, Miss Beaumaris. » Elle inclina silencieusement la tête et s'éloigna. Claude la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu dans la foule. Il lui semblait que sa jeunesse s'en allait avec elle. Le lendemain, donc, il était seul dans son nouveau logement, se demandant comment il s'y prendrait pour recommencer la vie. C'était un triste jour de Noël. Il pleuvait à verse, le vent gémissait dans les cheminées et faisait grincer les girouettes. Quelques voitures passaient, mais les trottoirs étaient déserts. Claude avait été au service du matin dans l'église voisine. La musique, qui était excellente, c'était pour ce jour l'adorable pastorale de Handel. Or, des bergers gardaient leurs troupeaux dans les champs, n'avait fait qu'augmenter sa mélancolie. Comme il arrive souvent, le jeu de l'orgue avait remué en lui un tourbillon de sensations confuses, ainsi qu'un rayon révèle tout à coup les atomes infiniment nombreux suspendus dans l'air. Claude était rentré très abattu, accablé par le sentiment de sa solitude. Une inquiétude vague, fiévreuse, semblable au mal du pays, s'emparait de lui. Il était plus loin de son vrai home, la petite maison de Beaumont Street, que si l'océan l'en avait séparé. Assis devant sa table, il essayait de lire quand on heurta légèrement à la porte et la bonne, passant sa tête dans l'entrebâillement, avertit M. Forest qu'un gentleman désirait lui parler et l'attendait en bas. Claude descendit aussitôt. À sa grande surprise, il reconnut M. Truffitt, le fabricant de brosses électriques. « Voyons, jeune homme, est-ce qu'on décampe ainsi sans avertir ses correspondants ? Je vous ai cherché à Beaumont Street, au bout du monde. Sachez que vous vous êtes fait de mon cocher un ennemi mortel. Le jour de Noël encore, et quand il pleut des grenouilles, nous obliger à courir après vous du septentrion au midi. On prévient son monde que diantre. Pourquoi déménager ? Et que signifient ces airs d'urnes funèbres au moment où toute l'Angleterre se réjouit autour du plum pudding fumant ? Soyez gai, monsieur, entendez-vous ? Claude ne put s'empêcher de rire. « Il me serait difficile de ne pas l'être en votre compagnie, dit-il. À la bonne heure, vous me faisiez songer à mon fils que j'expédierais aux colonies un de ces quatre matins. Il ne fait plus que soupirer. Ça détériore sa constitution et la mienne. Je vous apporte une bonne nouvelle. Mais asseyez-vous donc, dit Claude en avançant un fauteuil. S'asseoir, s'asseoir. Ces jeunes gens ne pensent qu'à s'asseoir. On les appellera la génération assise et ce sera bien fait. De mon temps, on marchait, monsieur. Vous me faites songer à mon fils. Voici une lettre que je voulais vous communiquer. Il tira une enveloppe de sa poche. Vous connaissez M. Simpson ?
Trop bien, répondit Claude.
Voici ce qu'il m'écrit. De tous côtés, on me demande la valse électrique-électrac, composée par M. Claude Forest et publiée par votre maison comme étrenne à ses clients. Au cas où vous ne désireriez pas en conserver la propriété exclusive, veuillez me communiquer l'adresse de M. Forest, que j'ignore malheureusement. S'il avait su, il se serait bien passé de mon intermédiaire, dit M. Truffitt en replaçant la lettre dans sa poche. Mais c'est une bonne chance, et quand une bonne chance tombe du ciel le jour de Noël, elle est encore meilleure. Laissez-moi vous féliciter, jeune homme. Parbleu, vous me faites songer à mon fils, un artiste, lui aussi, qui s'est mis dans la réclame et qui s'en repent, je ne vous le cache pas. Mais pour vous, c'est une autre chanson. Claude, un peu remis, cherchait à se persuader qu'il était extrêmement joyeux. C'est donc le succès, dit-il, je me l'étais figuré autrement. Mon cher enfant, rien n'arrive jamais comme on se le figure, dit M. Truffitt. Quand on attrape l'oiseau bleu, il lui manque toujours quelques plumes. M'entendez-vous parler de l'oiseau bleu, moi, un homme grave, posé dans la cité? J'ai pris ça de mon fils. La poésie, c'est contagieux. Supposez-vous, demanda Claude, que M. Simpson m'écrira prochainement? Il ne perdra pas une heure, vous pouvez en être sûr. Vous allez devenir une cible. Parbleu, je savais ce que je faisais en adressant votre valse à mes seuls clients. Je lui donnais quasi une saveur de fruits défendus. Le reste du public meurt déjà d'envie d'en jouir. Vous voyez qu'on tombe sur M. Simpson, qui enrage d'avoir manqué une belle affaire. Jouez serré avec lui, jeune homme, vous tenez les atouts. M. Truffitt, qui, durant ce discours, avait fait 14 fois le tour de la chambre, s'arrêta près de la fenêtre pour jeter un coup d'œil à ses chevaux. « Où dînez-vous ce soir ? » demanda-t-il brusquement. « Au restaurant, je suppose. » « Pas de ça, je vous emmène. Mon roast beef vaut bien celui du restaurant, j'imagine. »« Non, non, je n'écoute rien. N'argumentez pas, jeune homme, je suis très colérique. Mon médecin m'ordonne d'éviter les discussions. Vous êtes lugubre comme Newgate, on vous jouera votre valse après le dîner et vous la danserez avec ma nièce qui est charmante. » Avec la meilleure volonté du monde, je ne saurais être très gai, dit Claude. Laissez-moi ici, monsieur Truffitt. Je vous gâterai votre soirée de Noël, car je suis sous le coup d'un grand chagrin. Le gros homme devint grave. Un décès ? Fit-il d'un ton solennel. Non, mais... Or cela, tout se répare, mon jeune ami. Parbleu, j'ai eu 25 ans comme vous, bien que cela paraisse vous étonner. Je les connais, ces chagrins. C'est comme un grand coup qu'on se donne au coude. On voit danser 36 000 chandelles, et puis ça passe, ça passe. Raison de plus pour venir dîner avec nous. Claude ouvrant la bouche pour refuser de nouveau, M. Truffitt devint tout rouge. Comme je vous dis que mon docteur défend qu'on me contrarie. Et prenant Claude par le bras, il le poussa jusqu'à la porte. Fourrez dans votre sac un habit noir et une cravate blanche. Madame Truffitt tient beaucoup à l'étiquette. Je vous donne 4 minutes, pas une seconde de plus. Mon cocher commence à s'impatienter, et les cochers, c'est comme les barbiers, ils ont sur vous droit de vie et de mort. Les 4 minutes n'étaient pas écoulées que déjà M. Truffitt, dans son impatience, courait au petit trot tout autour du salon. À l'avant-dernière seconde, il n'y tint plus et se précipita dans le vestibule. Fort heureusement, Claude descendait l'escalier, car M. Truffitt aurait fait un esclandre. « Enfin, vous voilà. C'est heureux. Regardez James, là-haut sur son siège, il a l'air furieux. »
Ce redoutable cocher avait cependant la mine la plus débonnaire du monde. Confortablement enveloppé dans sa grande pèlerine de fourrure, il souriait avec une affable condescendance à quelques plaisanteries du valet de pied qui élevait au-dessus de leur tête à tous deux la coupole d'un vaste parapluie. « Ne vous fiez pas à ces airs innocents !» murmura M. Truffitt. « Il médite de nous verser, mais il se ravisera en songeant que sa place est bonne après tout. » James se ravisa, paraît-il, car au bout d'une heure, la voiture entra dans la grande allée d'un joli parc, décrivit une courbe savante autour d'une belle pelouse ovale et s'arrêta à la porte de la Villa Truffitt. Claude, précédé de son hôte, entra dans un grand hall bien chauffé et orné de plantes vertes où se trouvait une assez nombreuse société. « Mesdemoiselles et messieurs, voici M. Claude Forès, un jeune homme très remarquable qui sera célèbre demain matin. Lucius, chargez-vous des présentations en détail, moi j'embrouille tout cela, » fit M. Truffitt en s'approchant de la cheminée où brûlait une bûche énorme. Lucius, c'était l'auteur des sonnets, « Mon fils, en un mot. » Il serra la main de Claude avec mélancolie. « Enchanté, » murmura-t-il, « positivement enchanté. Permettez-moi de vous présenter à ma cousine, Miss Minnie. »« Ah, mais je vois que vous vous connaissez. »« De vieille date, » dit Minnie. « Mon père sera, comme moi, charmé de vous revoir, Monsieur Forest. » Au moment même où Claude serrait la main de Minnie, Olive Beaumaris, perchée sur un tabouret au milieu du salon de Miss Picknell, attachait au luth un dernier feston de lierre. Les deux bras levés, sa taille souple s'inclinant en arrière et son petit pied bataillant avec les plis trop longs de sa robe, elle était toute à son œuvre d'art. Son corsage bleu foncé était orné d'un petit bouquet de gui dont les perles mates étaient posées délicatement sur un feuillage pâle. Elle en aurait mis dans ses cheveux si elle l'eût osé, mais les principes de Miss Picknell s'opposaient fortement à un excès de parure. Le lustre en guirlandais se reflétait dans la haute glace du trumeau à laquelle Olive jetait de fréquents coups d'œil. « Ah, c'est charmant !» murmurait-elle. Son admiration s'adressait à sa propre image, aussi bien qu'aux gracieux entrelacements sur lesquels elle semait une fine poussière nacrée semblable à du givre. « Eh bien !» fit-elle en laissant retomber ses bras, « je regrette M. Forest, après tout. Il avait une âme appréciative, comme dit Miss Picknell quand elle cite les poètes. Il m'aurait félicité de cette jolie décoration. Mais enfin, nous tâcherons de nous passer de lui. » Elle sauta légèrement de son tabouret et rassembla à la hâte ses menus outils. Ayant jeté dans la cheminée quelques rameaux épars, elle secoua les plis des rideaux pour leur donner un tour plus gracieux, remua deux ou trois fauteuils, puis se jeta comme une écolière sur le tapis du foyer. Accoudée et rêveuse, elle regardait le feu quand la porte s'ouvrit. Olive se leva d'un bond et vit M. Ferrol en habit noir, très agité et fort pâle, lui sembla-t-il. « Je vous dérange, » murmura-t-il d'une voix faible. « Oh, pas le moins du monde !» répondit Olive, les yeux baissés, en jouant avec son bouquet de gui. Je craignais que... » Il s'interrompit et ses yeux dirent à Olive, le plus distinctement du monde, « Vous êtes si charmante que j'en deviens fou !» Sa figure était contractée. Un instant, l'expression en fut tragique. C'est quand il ne parlait pas que M. Ferrol était le plus éloquent. Il se dirigea vers la fenêtre. Dans l'obscurité croissante, le feu semblait plus brillant. « Miss Picknell n'est pas ici ?» dit enfin M. Ferrol. « Je ne crois pas !» répondit Olive, qui ne put s'empêcher de sourire. « Quel homme ! Quel homme ! » pensait-elle. « Il n'arrivera jamais au fait !»« C'est que j'aurais désiré lui parler !» reprit M. Ferrol d'une voix défaillante. « À Miss Picknell ?»« Oui !» « Par exemple, voilà des circonlocutions !» se dit Olive. « Miss Picknell descendra tout à l'heure. Veuillez vous asseoir en l'attendant. » Elle ouvrit un livre. Les angoisses évidentes de M. Ferrol excitaient sa compassion, mais qu'y faire? Elle finit par invoquer de tous ses voeux Miss Picknell, dont l'entrée servirait peut-être à détendre la situation. Que faisait donc Miss Picknell? Où s'attardait-elle si longtemps ? La petite serre du premier étage, prédestinée à être le théâtre de toutes les scènes émouvantes, servait à cet instant de cadre aux rougeurs de Miss Picknell. M. Gibson lui pressait la main en l'appelant Tabitha et lui représentait que rien n'était plus désirable que leur union. « Je me suis tue longtemps, disait-il. Nous ne sommes pas de ces étourneaux qui mettent toutes voiles au vent sans réfléchir aux conséquences. Mais je me flatte, cher ami, que vous deviniez mes sentiments malgré mon silence. » « Non, répondit Miss Picknell, au contraire. Aujourd'hui, je vous les dépeins dans toute leur ardeur. S'il faut que je vous quitte, chère Tabitha, si vous m'ordonnez de fuir votre maison hospitalière, dans cette saison inclémente, ce sera ma mort. » Il toussa. « J'ai un caractère déplorable, l'humeur la plus biscornue, poursuivit-il, mais la main d'une femme, Tabitha, la main d'une femme !» Accablé par l'émotion, il s'assit sur un pot à fleurs retourné. Miss Picknell en fit autant, c'était une idylle. Ils se turent longtemps. Miss Picknell, les yeux baissés, était en consultation avec les mânes renfermées dans son bracelet. « De grâce, répondez-moi, voulez-vous faire mon bonheur ?» reprit enfin M. Gibson. « J'y consens, répondit-elle d'une voix aussi faible que les circonstances l'exigeaient. M. Gibson poussa un cri de joie et l'embrassa sur les deux joues. Miss Picknell eût préféré qu'il lui baisât la main. Ce fut son premier désappointement. Le tête-à-tête d'Olive et de M. Ferrol devenait un supplice. L'infortuné jeune homme se promenait avec agitation, faisant à son mouchoir des nœuds innombrables qui étaient sans doute les points de repère de son futur discours. L'impatience d'Olive atteignait son paroxysme. En voyant Miss Picknell franchir le seuil au bras de M. Gibson, la jeune fille tressaillit de joie. Cette apparition n'allait-elle pas rompre le charme et faire enfin trouver à M. Ferrol le mot de la situation ? « Soyez la première à apprendre la nouvelle, ma chère Olive !» dit Miss Picknell en lui tendant la joue. « Monsieur Ferrol, dit M. Gibson avec majesté, « j'ai l'honneur de vous faire part de mes fiançailles avec Miss Picknell. »«
Je suis très... très surpris, je vous assure, » murmura le jeune affligé. « Toute... ma sympathie, croyez-le !»
Puis, avec un effort désespéré, il ajouta, en se tournant vers Miss Picknell,
« J'ai aussi quelque chose à vous dire. »
Un grand silence se fit. Miss Picknell sourit d'un air encourageant. Olive écarta les rideaux et regarda dans la rue.
« Ne mettez pas de couvert pour moi ce soir, » dit M. Ferrol d'une voix étranglée. « Je dînerai en ville. »
Olive poussa un petit éclat de rire nerveux.
J'ai encore à vous dire, monsieur Ferrol, dont la pâleur devenait terrible, que je suis fiancé.
Avec qui ? S'écria Miss Picknell. Pour la première fois de sa vie, la surprise lui fit oublier les convenances.
Avec ma cousine, Miss Mellonet.
Ah ! Fit Miss Picknell. Elle prolongea ce monosyllabe pendant 5 secondes pour donner à Olive le temps de se remettre.
« Recevez toutes mes félicitations, » ajouta-t-elle froidement. « Veuillez aussi accepter les miennes, » dit Olive en s'avançant.
Sa voix était parfaitement naturelle. Debout sous le lustre aux vertes guirlandes, la jeune fille souriait. M. Ferrol lui jeta un regard désespéré, puis tourna sur ses talons et s'enfuit.
« Eh bien, vous ne me dites rien de mes décorations, » poursuivit Olive. « N'est-ce pas qu'elles sont réussies ?»«
Charmante, » répondit Miss Picknell, le cœur rempli d'admiration pour cette vaillance féminine. « Mais allez vite vous brosser les cheveux, Olive. Nos hôtes ne tarderont pas à arriver. » Quelques minutes plus tard, Miss Picknell, qui savait fort bien que ses hôtes n'arriveraient que dans une grande heure, entra doucement dans la chambre d'Olive.
« Ma chère, vous êtes une héroïne, » dit-elle en l'embrassant. « Le drapeau est sauvé. »
Olive se détourna avec impatience.
« Cela ne m'a pas coûté grand effort, » répondit-elle d'une voix sèche.
Elle paraissait calme. Elle n'avait point, d'une main crispée, déchiré ses dentelles, ni son mouchoir de batiste, comme Miss Picknell s'y attendait. Elle avait même brossé ses cheveux et mis son bouquet de gui dans un verre d'eau sur sa toilette pour le rafraîchir. « Ce qui me révolte, fit-elle en s'animant un peu, c'est qu'on me déserte ainsi par pure avarice. Je sais fort bien comment la chose s'est passée. Miss Meloné a fait récemment un héritage. Elle s'est jetée à la tête de son cousin qui n'avait de sa vie songé à elle. Elle est plaquée d'or comme une pagode chinoise. Elle a ébloui le pauvre garçon. Ah, mon Dieu, quel monde sordide où l'argent prime tout !» Miss Picknell posa solennellement sa main sur l'épaule d'Olive. « C'est un jugement, dit-elle. Pourquoi donc avez-vous rejeté Claude Forest, si ce n'est parce qu'il était pauvre ?» Olive rougit en repoussant la main de Miss Picknell. « C'était bien différent, fit-elle d'un ton bref. Puis, tout à coup, elle se jeta à genoux devant son lit et, cachant son visage dans la couverture, elle éclata en sanglots.